Donc on était arrêté hier sur la ponctuation en vous disant, regardez dans les textes que vous avez étudiés ou à commenter, gardez-vous une place pour la ponctuation, ça peut être valable en poésie aussi, c'est-à-dire amusez-vous à regarder s'il y a beaucoup d'exclamations ou s'il y a beaucoup d'interrogations. Ici on avait relevé plutôt des exclamations, sans donner les exemples, à vous de les chercher un peu dans le texte. Hein. Vous en avez un certain nombre. Oui, mais dans la première aussi, peut-être, non ? Hein ? Dans la première aussi. Et ce qu'on avait dit, alors, on va regarder quand même ce qu'on dit qu'on doit le faire. Hein ? Vous avez dans Anton Anzas, il a été prévenu, c'était d'une imprudence folle. Vous avez, il est fou de colère, izquierdo, point d'exclamation à chaque fois. Hein. Enfin, il y a de sa faute. Il est prêt de le capturer, celui-ci lui glisse entre les doigts, point d'exclamation. Il y a donc un traître dans l'état-major, point d'exclamation. Ah, ce sera de nouveau la guerre, point d'exclamation. Hein. Et puis encore, hein, 19 femmes, il y en avait deux divines. Tais-toi donc. Dommage, oh dommage, une indienne, avec une ou deux petites questions. Vous voyez que, bon, la densité est tout à fait raisonnable en point d'exclamation. Ce qui tendrait à penser que cette scène d'exposition doit être jouée avec un certain rythme, c'est-à-dire relativement vite. Hein, que les, mais j'ai déjà dit qu'on pouvait avoir d'autres choix de mise en scène. Hein. Ça n'est pas parce qu'il y a des points d'exclamation que... Mais, alors, la difficulté justement de la représentation de cette pièce-là, ça va être ça. Hein, ça va être qu'on est dans une situation dramatique ou pathétique du début à la fin. Hein, donc, la difficulté qu'à mon avis, les gens qui l'ont joué au Festival d'Avignon n'ont pas vraiment résolue, mais c'est ma perception... Et encore, je n'ai qu'une perception vidéo. Hein. Si j'avais vu si j'avais été à la présentation dans la salle, on n'a pas du tout la même perception quand on est dans la salle de théâtre et quand on est devant un écran de télévision. Hein, ça ne fait pas du tout le même effet, ne serait-ce que la présence du public. Hein, vous savez que les acteurs, ils jouent en fonction, ils ressentent le public et ils jouent en fonction du public qu'ils ont en face d'eux. Hein, qui a une interaction, je dirais, en partie muette, en partie sonore, entre l'acteur et les spectateurs. C'est-à-dire que même si la salle ne se manifeste pas, on peut sentir qu'elle est présente ou qu'elle est absente. Et puis, évidemment, si elle se manifeste par des réactions, des rires, des applaudissements, là, elle marque sa présence de façon plus nette et plus visible. Mais même si la salle... Même dans une salle silencieuse, on va sentir si c'est glacé ou s'il y a de la chaleur ou si, voilà, si la salle suit, en quelque sorte, hein, puisque le but, c'est de suivre. Donc, on a dit, le caractère passionné du débat, c'est là-dessus qu'on était arrêté. Non, on était arrêté sur la menace qui pèse sur les Espagnols. Hein, si Bolivar parvient à passer nos lignes, ce sera de nouveau la guerre. Alors, si on travaille sur l'implicite comme tu le faisais, ça veut dire, si on te dit, ça sera de nouveau la guerre, ça veut dire que ce n'est pas la guerre. Hein? Que ça l'était, en plus. Hein? Alors, période de paix, difficile à dire. Hein? Parce que, oui, Bolivar essaie de remonter une guerre civile, d'une certaine façon. Hein, essaie de rassembler ses troupes. Donc en quelque sorte on est dans une sorte de guerre préventive, hein, des Espagnols contre Bolivar. Ils essaient de faire en sorte qu'ils ne puissent pas rassembler ses troupes et se battre à nouveau. Alors remarquez la remarque d'Anton Anzas aussi, puisqu'on parlait des personnages. Que dit-il à propos de la guerre? C'est une attitude de soldat. J'aime mieux faire la guerre que de crever d'ennui. Hein? Pourquoi on est soldat? Parce qu'on s'ennuie et que c'est bien quand on se bat. Hein? Un peu l'idée que je suis témoin, ça existe. Hein, je me rappelle dans un train avoir entendu des gamins qui s'en allaient au Larzac, parce que vous savez que le Larzac, c'était un camp d'entraînement. Donc ces gamins, ils n'étaient pas majeurs, ils avaient 17 ans, et ils pleuraient. Ils se désolaient parce qu'ils ne pouvaient pas partir faire la guerre au Liban. Hein, voilà. Bon. Hein, donc il y en a qui aiment bien ce qu'on appelle le contact, je sais pas. Le mot ne vient pas, le baroud. Voilà. Alors, l'autre explication à l'intérêt des soldats pour la guerre, c'est ce qu'on appelle le repos du guerrier. Hein, le repos du guerrier, c'est vous vous battez, c'est dur, mais vous aurez les femmes. Hein, c'est ça qu'on leur... il est sûr que ça ne l'aurait pas dit explicitement, puisque ce que racontent nos personnages, c'est que normalement, ils devaient tuer tout le monde. Mais ils se sont gardés les filles parce que, bon, voilà, ça leur plaisait de garder les filles, hein, pour eux. Donc, il y a quand même l'idée d'une désobéissance et, alors, de permission que se donnent les soldats. Et, contrairement... Contrairement à ce qui se passe à notre époque, ces soldats ne craignent pas, s'ils violent les femmes ou les filles, ne craignent pas derrière le conseil de guerre ou un tribunal international. Hein, à notre époque, c'est ce qui arrive. Par exemple, c'est ce qui s'est passé dans la guerre en Yougoslavie. Les soldats ont été violer les filles, mais il y a des menaces de jugement qui pèsent sur eux derrière. Hein, là, il y a, même si le commandement ne les autorise pas officiellement à violer comme ils veulent, ils ont déjà l'ordre de tuer. Hein, c'est toléré. Hein, ils n'auront pas d'ennui avec leurs supérieurs. Ils le savent bien. Et s'il y a eu, ou s'il y a encore des viols dans les guerres présentes, eh ben, c'est un peu la suite de cette ambiance-là. C'est-à-dire qu'il y a des soldats qui ne peuvent pas comprendre qu'on n'a pas le droit, qu'on n'a pas tous les droits dans la guerre, en quelque sorte. Hein, qu'il y a, et qu'on a essayé. Qu'on a essayé d'instaurer ou de fixer des lois pour limiter les atrocités de la guerre, d'une certaine façon. Alors on a dit toléré ou encouragé par l'armée, hein, c'est ce repos du guerrier. Alors, il est certain que dans cette première scène, on nous évoque assez rapidement, mais d'une façon assez vive, la cruauté de la guerre, pas seulement la cruauté des Espagnols, on l'a bien dit, hein, pas seulement la cruauté des Espagnols au Venezuela, mais la cruauté de toutes les guerres. Hein. Alors, tout en évoquant la cruauté de la guerre, on prépare ce qu'on a déjà dit, hein, l'arrivée du protagoniste, ça prépare, alors on a déjà dit que ça préparait l'arrivée d'Izquierdo, mais on peut penser également, alors comment on appelle le héros d'une histoire, le terme un petit peu recherché, un petit peu grec d'origine. Ça s'appelle le protagoniste, d'accord, hein? Le protagoniste. Alors, ça nous prépare également à l'arrivée du second protagoniste, c'est-à-dire Montserrat. Hein? Bien sûr, Izquierdo est annoncé, mais on peut sentir venir derrière l'opposé d'Izquierdo. Hein? C'est-à-dire qu'on va avoir... Va arriver le cruel, l'inhumain Izquierdo, et... on va sentir que peut-être il va y avoir derrière le tendre et l'humain, hein, Montserrat. Voilà. Alors, non seulement le tendre et l'humain, mais aussi le traître. Hein, il y a donc un traître dans l'état-major. Voilà qu'on nous a. C'est par cette phrase-là qu'on nous annonce Montserrat. On est à la recherche d'un traître. Et on espère bien, nous, spectateurs, le voir. Alors, traître, mais on peut dire aussi le rebelle. Hein, selon un mot à la mode, le rebelle. Alors, le traître est un terme péjoratif. Et le rebelle peut, dans certains cas, être plutôt un terme amélioratif. Il y a des gens qui aiment les rebelles. Hein. C'est bien de se rebeller quelquefois. Alors celui, le rebelle, c'est-à-dire celui qui dit non aux exactions de ses camarades et comprend aussi les souffrances des peuples opprimés. Donc avant même de connaître l'existence de Montserrat, je dirais qu'on a déjà, il y avait le mot anticipé hier, on a déjà une sympathie anticipée pour ce traître. Hein, le spectateur va avoir, par réaction par rapport à l'aspect révoltant de nos soldats espagnols, on a déjà un début de sympathie avant même d'avoir vu Montserrat. Avant même de connaître, le spectateur, voyant le cynisme des soldats, envie de prendre place dans le camp du traître, en quelque sorte. Hein, on a envie d'être dans le camp du traître, auprès des Indiens, auprès des populations massacrées, torturées et humiliées. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, mis à part la mode qu'on a actuellement d'avoir l'air cruel, hein, mis à part cette mode, le spectateur sera tenté... Alors, c'est d'autant plus vrai à l'époque où est jouée la pièce. Hein, je vous rappelle... Où vous me rappelez, c'était joué en 1900, vous me l'avez dit, hein, 48, c'est ça, la date à laquelle c'est joué, c'est 48 ou pas, voilà, hein, en 1948. Donc il est certain qu'en 1948, on sort de quoi? On sort de la Deuxième Guerre mondiale, hein, et puis... Ce qui est à la mode, hein, à cette époque-là, c'est plutôt la tendresse et l'humanité que ce qu'on peut avoir à la mode actuellement, hein, qui est l'idée de la violence, de la cruauté, etc. Ça fait bien, ça fait viril, hein, d'être violent, cruel et même grossier, hein, puisque j'ai croisé dans le train des gens qui étaient très fiers de sortir des grossièretés tous les trois mots. Voilà, et on n'ose pas trop leur rentrer dedans parce que bon, on a peur que la violence arrive derrière, hein, et on ne se trompe pas quelquefois. Voilà, on revient un petit peu sur le personnage d'Antonin Sas, hein, qui nous évoque son impatience. Je brûle, c'est le curieux, on avait dit hier, je brûle d'envie de savoir comment l'affaire s'est déroulée. Hein, et en même temps, il a le rôle d'Antonin Sas de communiquer cette curiosité au public. Hein. Moi, je brûle d'envie de savoir, est-ce que vous, public, voyez qu'il y a ici ce qu'on appelle, comment on appelle ça, le double discours, comment ça s'appelle, hein, ça s'appelle la double énonciation, hein, que le discours d'Antonin Sas est dirigé vers ses camarades, mais vers les autres personnages, mais il est dirigé aussi vers le public. Hein, je suis curieux de savoir, c'est une adresse au public, n'êtes-vous pas curieux de savoir, hein, il y a un traître, est-ce que vous n'êtes pas curieux de savoir qui est le traître, de voir, est-ce qu'on va voir le traître? Donc le public est appelé à partager la même attente, hein, que celle d'Antonin Sas. Alors, à la fois deux attentes, celle de l'arrivée d'Izquierdo et celle de la découverte du traître. Hein, on intègre, c'est une façon d'intégrer le personnage, le public, pardon, à l'action. Alors, sur le caractère d'Izquierdo, vous pourriez développer quand même longtemps, parce qu'on est assez informé Monsieur Iglesias, il nous fera un exposé bientôt. Hein, je vois qu'il est en forme. Analyse du caractère d'Izquierdo, évoquant à la fois sa naïveté, c'est un gamin, hein, certains d'entre vous l'ont dit peut-être, la conviction insolente que les événements vont marcher comme il le désire, ça c'est le contraire d'un adulte, hein, qui croit, qui prend ses désirs pour des réalités, mais c'est l'enfant, mais il y a des adultes qui continuent de le faire, hein, c'est certain. Et à côté de cette naïveté, le contraste, alors comment on construit un personnage? Justement, on le construit sur les contrastes et sur les contradictions. Hein. Moi je dirais un personnage de chair ou un personnage réaliste, hein, pour qu'il fasse vrai, il faut qu'il ait des contradictions. S'il est tout blanc, tout noir, c'est une marionnette. Vous ne croirez pas à son existence réelle. Hein. Il n'y a pas de parfait méchant, parfait traître, sinon dans quelques écrits du Marquis de Sade, par exemple, là c'est vrai que là, il essaie, le Marquis de Sade, de nous définir le vrai, le pur méchant. Néanmoins, justement, ces personnages du Marquis de Sade n'ont pas l'air réels, hein, dans la mesure où la méchanceté est poussée à son extrême. Hein, donc, à partir de ce moment-là, s'il n'y a pas de faiblesse, hein, même chose chez Izquierdo, s'il n'y avait pas le petit passage de la fin où il se confie à Montserrat et où il raconte pourquoi il est méchant, etc., s'il n'y avait pas ce passage-là, s'il n'y avait pas quelques passages où Izquierdo nous montre, je ne dirais pas sa tendresse, mais ses faiblesses, eh bien, ça ne serait pas un personnage crédible. On construit un personnage crédible à partir d'opposition ou à partir de contradiction. Ici donc la naïveté d'Izquierdo et en face sa violence. Hein. Il explose, il tonne, il veut crever le ciel. Remarquez au passage que ces trois expressions sont des expressions métaphoriques. Hein. Il explose, c'est métaphorique, bien sûr, hein, vous n'allez pas le voir exploser vraiment. Il tonne, ben, on le renvoie au tonnerre, bien entendu, hein, donc il y a une image derrière, et il veut crever le ciel, là on est plutôt dans l'hyperbole, hein, il veut crever le ciel, crever le ciel, c'est à la fois réaliser quelque chose d'impossible, et en même temps, on le voit dans la suite de la pièce, une agression vis-à-vis de Dieu, hein, qui ne l'a pas aidé quand il était enterré dans la plaine. Il y a ça, il y a une espèce de soit Dieu ne s'intéresse pas à moi, ou Dieu n'existe pas. Mais à son niveau, sachant que l'Espagne est une nation catholique, c'est plutôt Dieu ne m'a pas aidé, hein, que Dieu n'existe pas. Hein, on n'en est pas là chez les Espagnols. Hein, mais voilà, Dieu il laisse faire en quelque sorte. Hein, il laisse faire toutes ces cruautés, Si intéressé, il devrait réagir en quelque sorte. Hein, dans le message d'Izquierdo, il y a ça. Il y a comme le message d'Ivan dans Les Frères Karamazov, c'est-à-dire si Dieu n'existe pas. Là, on dirait à propos d'Izquierdo, si Dieu ne réagit pas, tout est permis. Hein. Normalement, vous savez, quelquefois, on dit que je sois foudroyé, si. Hein. Voilà. Normalement, les méchants devraient être punis. Simplement qu'on nous promet plutôt de les punir après la mort, en quelque sorte. Hein, c'est ça, un peu l'idée de la religion, quelque part. Alors, ces hyperboles, il explose, il tonne, il veut crever le ciel, ça pourrait donner au personnage d'Izquierdo un caractère comique, en quelque sorte. Hein, quelqu'un qui s'explose comme ça, qui se met en colère, vous savez très bien, quand vous voyez un de vos amis qui pète, qui se met en colère, une des premières réactions, ça peut être de rire. Hein, vous voyez qu'il est devenu fou, en quelque sorte, de colère. Hein, donc ça peut... Izquierdo pourrait devenir un personnage comique s'il n'y avait pas derrière la souffrance des Indiens, la prise d'otages, etc. Hein, Donc, ce qui nous est annoncé, c'est presque un épisode comique. Moi, je dirais d'une certaine façon que une bonne mise en scène, on parlait tout à l'heure, j'ai chanté à ce moment-là, de l'intensité dramatique, comment la gérer, puisque c'est dramatique du début à la fin. Le mieux c'est d'instaurer une gradation, c'est-à-dire à la limite pas partir trop fort, mais avec Izquierdo qui nous a été annoncé comme ça, comme violent, il faut bien qu'on le voit violent au début de la scène. Néanmoins, je crois qu'il faut essayer de trouver ce que n'ont pas trop trouvé la troupe d'Avignon, hein, des moments où on s'apaise un peu. Hein, dans une pièce de théâtre, il y a toujours, ou même dans un film, hein, vous avez toujours alternance, même dans un concert. Sauf bien sûr si vous écoutez du métal, mais bon, mais dans un concert, je pensais à plutôt à la musique classique, hein, vous avez toujours des épisodes doux, lents, et des épisodes plus violents. Même chose au théâtre. Hein, pour que ça ait du relief, il faut qu'il y ait des bobos. Allez, c'est le quart d'heure, comme on dit au cinéma, c'est le quart d'heure sentimental. Hein. Là, dans la pièce, le quart d'heure sentimental, il faut le chercher un peu. Néanmoins, les comédiens, dans leur interprétation, s'ils gueulent du début à la fin, ben, c'est pas très réussi. Hein, le spectateur va à la fois se lasser de ces hurlements, puis en plus s'y habituer. C'est-à-dire que ça ne lui fera plus d'effet. Hein, c'est-à-dire que des cris, pour que ça fasse effet, il faut qu'il y ait un effet de surprise, il faut qu'il y ait un effet de contraste. Sinon, si tu cries tout le temps, ben c'est comme les gosses avec leurs parents. Hein, quand les parents crient tout le temps, les gosses n'y font plus attention. Voilà, ils sont blasés. Bon, elles gueulent encore. C'est tout. C'est tout ce qu'on dit. Ou ils gueulent encore, pardon, excusez-moi. Voilà. Hein, donc, on en a besoin dans l'interprétation. Même si la pièce est écrite ici uniquement sur l'intention, on a besoin d'effets de contraste. On essaie de terminer. Alors, à propos d'Izquierdo, donc du personnage, le caractère d'Izquierdo n'est pas donné comme il n'est, mais il est réactionnel. C'est le résultat d'une passion amoureuse. Hein, il a été amoureux, il a été déçu, il a été vexé. On l'a aussi, vous avez lu, on l'a exilé. Hein, il est atterri au Venezuela parce que on ne voulait pas qu'il continue de trucider le mari, l'amant, on ne sait pas trop, hein, de celle qu'il aimait. Voilà. Et puis, alors, ça c'est une première explication qui est donnée par ses camarades. La deuxième partie de l'explication sera donnée plus loin par Izquierdo, c'est-à-dire l'épisode du moment où il est enterré dans la plaine. Hein, voilà. La deuxième partie, comment Izquierdo lui l'explique, c'est le fait qu'il a été enterré dans la plaine. Cette histoire d'amour, lui, il n'en parle pas. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Hein, mais pour lui, la cause, il la voit plutôt le moment où il a été enterré seul dans la plaine en attendant de mourir. Alors, commentaire, conclusion. La scène qui avait débuté sur le mystère d'une trahison, qui nous promettait une sorte d'enquête policière, on ne va pas avoir d'enquête vraiment, puisqu'on va découvrir très rapidement le coupable, il va nous être donné, mais ça va s'achever sur l'idée d'une vengeance. Hein, une vengeance. Je crois qu'il ne pardonnera jamais à celui qui l'a joué ce matin. Hein, donc il ne pardonnera pas à Montserrat. C'est pas tout à fait vrai d'ailleurs. Hein, c'est pas tout à fait vrai puisque on voit à la fin de la pièce que Izquierdo, c'est pas son problème de pardonner à Montserrat. Il n'en veut pas à Montserrat, c'est pas ça. C'est qu'il veut être efficace. Il veut obtenir Bolivar, c'est tout. Hein, donc à la limite, il se laisse pas. Il n'est pas fou, hein, il se laisse pas guider par sa colère. Ce qu'il veut, c'est obtenir la peau de Bolivar. Hein, de ce côté-là, moi je dirais d'une certaine façon, Izquierdo est le contraire d'un fou. Il est vu comme un fou par ses soldats, mais non. Alors, il est fou dans la mesure où il a une idée fixe en quelque sorte. Capturer Bolivar, oui peut-être. Hein, mais il a quand même, voilà, par n'importe quel moyen. Alors dans cette mesure-là, il est fou. Hein. dans cette mesure-là, il est... Alors, confirmant dans la conclusion qu'on est plutôt dans l'atmosphère, ce qu'on disait hier, plutôt dans l'atmosphère du drame que dans celui de la tragédie, puisque... Alors, et non, dans l'atmosphère du drame, et même, puisqu'on avait discuté de ça, et même de la tragédie, puisque il y a une mort qui est quasiment annoncée, c'est la mort du traître. Hein, on a quasiment, dès le début, annoncé la mort de Montserrat.